Donc, ce que l'on essaie de cultiver, directement ou indirectement, c'est ce que j'appellerais une compassion éclairée et créative. Et je pense que parce que la compassion est innée, c'est quelque chose qui nous vient naturellement, généralement, on a une tendance à penser que tout mouvement de compassion, c'est bien. Mais en fait, moi je dirais que oui, on a tous une bonne intention, mais on n'a pas tous des bons résultats. Et donc je trouve intéressant de regarder deux choses. Qui en fait des compassions qui ne sont pas éclairées du tout. Et aussi de regarder quels sont les obstacles à la compassion. Donc, les compassions non éclairées, non créatives. Une que je trouve intéressante, c'est la compassion théologique. Alors, vous avez plein d'idées théologiques, et si quelqu'un souffre, vous allez les appliquer. Et c'est votre manière d'avoir de la compassion pour cette personne. Moi, ça, il y a très longtemps, ça m'était arrivé de me rendre compte de ça. Quand l'ami m'avait demandé d'aller voir sa mère dans la maison de retraite, à moi, en voiture, en y allant, je me disais « chouette !» On va pouvoir parler d'impermanence, on va pouvoir parler de mort, on va pouvoir parler de ci, de ça. Alors, j'étais vraiment bien partie pour ma compassion théologique. Et puis j'arrive, et la mère de mon amie, en fait, avait des hallucinations. Donc je vais la voir dans sa chambre, on parle un peu, puis tout à coup elle a un air super angoissé, et elle dit « la mouche ». Et elle voyait une mouche immense, grosse comme ça. Et elle était super effrayée. Mais on serait effrayé aussi si on voyait une super mouche grosse. Et en fait, on n'a jamais parlé de l'impermanence ni de la mort. Mais ce dont j'ai parlé, mon but après ça, à part d'être calme avec elle, c'était de la distraire. Alors je sais qu'avec la méditation, on est supposé d'être toujours pleinement conscient de ce qui se passe, mais pour elle, ce n'était pas utile, parce que ce qui se passait, c'est l'hallucination de la mouche, ce n'était pas très aidant. Et donc je passais mon temps à la distraire. Mais pour pouvoir la distraire, il fallait que je connaisse ce qui allait produire une tonalité plaisante, pour pouvoir l'orienter de cette manière. Donc, j'ai commencé à essayer de la connaître. Qu'est-ce qu'elle aimait ? Elle aimait le cricket, elle aimait les confitures, elle aimait les fleurs. Et donc, quand je la voyais devenir un peu anxieuse, « Ah, la confiture de rose ! Comment la faisiez-vous ? » Hop ! Et elle revenait, puis elle me parlait. Et donc, dans un sens, j'ai fait quelque chose qui était le contraire de ma théologie. Je passais mon temps à la distraire, pas à la faire « sois présent ici et maintenant avec ce qui se passe ». Après, il y a la compassion, je dirais marchande. Alors moi, je vous aide un peu, mais bon, en retour, j'ai une grande attente que vous allez m'aider encore plus. Et donc, c'est une compassion qui est toujours en train de calculer. Alors, moi, je fais ça pour vous, mais vous devez faire ça pour moi. Et de faire attention à ça. Je ne dis pas qu'on doit avoir de la compassion qui est juste d'un côté, mais de faire attention comment on approche l'aide à quelqu'un et l'attente qu'on peut avoir de ce qu'on va avoir en retour. Et mon maître avait une image très belle. Et il disait, quand vous donnez quelque chose, quand vous aidez quelqu'un, faites-le dans l'esprit que vous êtes en train de donner une serpillière. Vous n'auriez pas de grosse attente par rapport à ça. Et donc vraiment, de répondre créativement dans le moment à ce qui se passe. Après, on peut voir des tas d'autres compassions. Il y a la compassion, je dirais, théorique, culturelle, qu'on va appliquer certains schémas à certaines personnes, mais qui ne correspondent pas, et ça ne va pas être adéquat. Moi, je l'ai fait une ou deux fois. Je prends un modèle culturel, quelqu'un me demande « qu'est-ce que vous en pensez ?» Je lui dis « ah, mais je dis ce que généralement la culture dit. » Et puis ce que je vois, c'est que la personne part, revient, puis ne le fait pas, parce que ça ne correspond pas à la situation. Et donc, dans un sens, c'est pour ça que je pense que l'écoute est tellement importante, c'est parce que de vraiment savoir, parce que souvent on a aussi cette compassion, je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous. Vous savez peut-être mieux que la personne ce qui est bon pour la personne, mais est-ce qu'elle peut l'appliquer? Est-ce qu'elle peut le comprendre? Est-ce qu'elle peut le faire? Il y a beaucoup de chances que non, parce qu'elle n'est pas vous. Et vous n'êtes pas elle. Et donc, l'important, si on veut vraiment aider quelqu'un, soulager la souffrance de quelqu'un, c'est vraiment savoir. Et donc, pour moi, c'est une des dons de la méditation, c'est que si on est vraiment auto-centré, si on est vraiment auto-centré, on va toujours être moi, 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 moi. L'idée de la méditation, ce n'est pas de faire disparaître le centrage, parce que si vous ne pensez pas à vous-même, personne d'autre n'y pensera. Donc, en fait, ce qu'on veut faire, c'est de passer de 95% à 50%. Et donc, si on descend à 50%, on verra plus les autres. Mais on verra plus les autres, pas de notre point de vue, mais on va essayer de voir les autres, si c'est possible, dans la mesure du possible, de leur point de vue. Et moi, je trouve que c'est un des cadeaux qu'on peut faire aux gens. En fait, de vraiment être avec eux là où ils sont. Et après, de voir est-ce que je peux les aider ou pas, parce que des fois, on ne peut pas. Et donc, à ce niveau-là, il faut voir qu'on a nos limites. Il y a un texte de Sutta dans les anciens temps où le Bouddha dit il y a quatre sortes de personnes. Il y a des personnes qui n'ont que de la compassion pour eux-mêmes. Il y a des personnes qui n'ont que de la compassion pour les autres. Il y a des personnes qui n'ont ni compassion pour eux-mêmes, ni pour les autres. Et il y a des personnes qui ont la compassion pour soi-même et pour les autres. Et la quatrième est ce que je recommanderais. Et donc de voir que quand on a de la compassion, ce n'est pas seulement pour les autres, mais c'est aussi pour nous-mêmes, parce que nous aussi, on est un être humain, on est un être vivant. Et donc de voir que des fois, la compassion, ça va être comme un peu sur une échelle. D'un côté, il y a nous, d'un côté, il y a les autres. Des fois, on devra plus s'occuper de nous-mêmes, si on est malade, par exemple, si on a des difficultés. Des fois, il faudra s'occuper plus des autres parce qu'eux sont en plus grande difficulté, ont vraiment besoin de notre aide. Et puis, des fois, on sera au milieu, autant pour moi, soi-même, que autant pour les autres. Et ça bouge. Je pense que c'est important de voir que c'est pas on a de la compassion et puis c'est 100% tout le temps de la même manière. Non, 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 non. C'est une qualité. Et donc des fois, elle sera plus, il sera plus. On a la qualité, on a la capacité, mais des fois ce sera plus demandé, des fois ce sera moins demandé. Des fois c'est plus important d'être stable. Des fois, ça sera plus important d'avoir cette joie altruiste, de se réjouir avec les autres. Et donc, de voir quand est-ce que c'est habile, quand est-ce que c'est créatif, quand est-ce que c'est éclairé. Et donc, vraiment de voir que ça bouge, c'est pas un état, Et c'est pour ça que je trouve que l'exemple de Gabriel Marcel, le philosophe, est intéressant. Quand il dit « la compassion, c'est être disponible pour la souffrance des autres ». Et donc, il dit, l'exemple qu'il donne, c'est « votre ami est malade, vous êtes avec lui ». Et donc, à ce moment-là, comme il souffre, dans un sens, vous souffrez avec. Vous avez de la compassion parce que vous ressentez sa douleur et vous voulez l'alléger. Et donc, vous lui dites, qu'est-ce que je peux faire? Et il dit, viens me visiter à l'hôpital. Donc là, vous avez la compassion. 3 jours après, vous avez plein d'autres choses à faire et il vous demande de venir. Et vous venez pas parce que vous ressentez la compassion de la même manière quand vous étiez avec lui, mais parce que vous êtes disponible de faire l'effort d'être là pour cette personne. Et donc même si vous ne ressentez pas ce sentiment que vous avez eu à ce moment-là, vous y allez quand même, vous prenez le temps d'y aller. Et donc moi je trouve très belle cette idée qu'on est disponible pour la souffrance des autres et qu'on ne va pas toujours ressentir « Ah, chouette, j'ai de la compassion !» Mais en fait, que la compassion, c'est quelque chose, c'est pas juste un ressenti, c'est en fait une activité, c'est une réponse créative à la douleur des autres. Et bien sûr, si on peut aider, si on peut être avec. Et des fois, cette compassion, en fait, c'est presque faire le non-faire. Parce que souvent, en termes de compassion, on veut que la douleur s'arrête. La nôtre, bien sûr, mais celle des autres aussi. Mais des fois, c'est pas possible, ça prend du temps. Et des fois, la seule chose qu'on puisse faire, c'est être avec. Je me rappelle quand on avait un ami qui était très malade, donc on lui donnait beaucoup de médicaments pour qu'il ne souffre pas. Et donc, on allait le voir tous les jours, mais pas pour qu'il bénéficie tellement de notre présence, parce qu'il était vraiment dans les bas, mais juste pour qu'on soit avec lui, pour l'accompagner. Alors à ce niveau-là, on pouvait pas vraiment le soulager, mais au moins on pouvait être avec lui. Ou une fois, il y a une dame qui avait un cancer et qui nous avait demandé à mon mari et moi si on pouvait méditer avec elle. Et c'était tout ce qu'elle voulait. Une fois par semaine, est-ce qu'on pouvait venir méditer avec elle pendant 30 minutes? Elle ne voulait pas parler de la maladie, elle ne voulait pas qu'on la soulage, elle ne voulait pas qu'on fasse quoi que ce soit. Elle voulait juste, est-ce que vous pourriez vous asseoir avec moi en méditation une fois par semaine? On a dit, pourquoi pas, ça c'est facile. Mais c'était intéressant parce qu'il y avait ce désir de soulager, de conseiller, je pouvais voir qu'il y avait un désir d'être plus active dans ça, et en fait de voir que non, c'est pas ce qui est requis, c'est pas ce qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est juste de passer du temps, d'être avec, vraiment d'une façon calme. Et ça a été une expérience très forte. Et donc, de revenir un peu, je dirais, une des racines, un des aspects de la compassion, c'est l'écoute. Vraiment une écoute qui est vraiment dirigée vers soi-même ou vers les autres. Et donc, de prendre le temps, parce que souvent, avec la compassion, on est dans le « je veux que ça change, je veux que ça soit autrement, je veux que ça s'arrête ». Et donc, on va être souvent... des fois, il faut bien sûr se précipiter. S'il y a un accident, si c'est urgent, oui. Mais si ce n'est pas dans l'urgence, dans un sens, si on se précipite, on ne va pas vraiment se rendre compte qu'est-ce qui se passe, de quoi on a besoin. Et donc, avec l'écoute, c'est vraiment d'être à l'écoute de l'autre, à l'écoute de soi-même. Et là, on peut commencer un peu à explorer comment on écoute ? Parce que je pense que c'est une des grandes pratiques qu'on peut faire dans la vie quotidienne. Alors, en méditation, je vais expliquer comment le faire. Mais dans la vie quotidienne, on peut se demander comment on écoute. Quand on est avec quelqu'un qui parle, qu'elle parle, qu'est-ce qui se passe? Et je dirais que généralement, on écoute de trois façons. Première façon, on écoute, mais on attend que la personne s'arrête de parler pour qu'on puisse dire quelque chose de tellement plus intéressant. Et là, on va faire trois choses. On va attendre, on va être dans, quand on l'attend, quel est le moment où elle va s'arrêter. Donc on est toujours un peu à laguer pour quand ça s'arrête. Après, on essaie de se rappeler de ce qu'on veut dire qui est tellement plus intéressant, qu'on ne veut pas oublier. Et puis, un tiers, on écoute. Je ne dirais pas que c'est de la vraie écoute. Deuxième façon, on regarde dans la bonne direction, la personne nous parle, et on pense à quelque chose totalement différent. On fait une liste pour les courses, ou on ne sait pas. Et quand la personne s'arrête et qu'elle nous dit « qu'est-ce que t'en penses ?», on n'a aucune idée de ce qu'ils ont dit. Mais c'est intéressant parce que nos oreilles marchent. Mais là, ça montre combien, que même si on est opérationnel, s'il n'y a pas d'attention, en fait, on n'entend pas ce qu'ils ont dit. Et donc, pour vraiment entendre quelqu'un, il faut vraiment avoir une certaine quantité d'attention quand même. Et la troisième méthode d'écoute, là, on s'agrippe à ce que la personne dit et on exagère, on amplifie et généralement, on n'aide pas le truc. Et la pratique que je recommanderais de l'écoute, c'est de vraiment écouter. La personne parle et pour moi, c'est une pratique de rester là. De rester là, d'écouter la personne, parce qu'on peut voir, on écoute la personne, et puis notre esprit a une tendance un peu, on remarque en méditation, hein, on va ailleurs. Même avec la bonne intention, on écoute, hop, on part. Et donc ça devient en fait une méditation. La personne parle, et j'essaie d'être le plus là possible. De vraiment entendre tout ce qu'ils disent. Et ce qui est intéressant, c'est que quand la personne s'arrête, on va dire quelque chose qui va être très approprié. Et souvent, on va se surprendre. J'aurais jamais pensé que j'aurais pu dire ça, ou que j'aurais pu penser ça, ou que j'aurais pu avoir cette solution, ou quoi que ce soit. On est souvent surpris, on se dit « waouh ! Ah, c'était bien hein, ce que j'ai dit quand même. » Puis on s'est dit « Ah, il faut que je me le rappelle. » Et puis on l'oublie. Parce que c'était par rapport à ce moment-là. Avec cette personne. C'est pas une formule. On aime beaucoup les formules qu'on peut appliquer à tout le monde, en toutes circonstances. Mais c'est ça qui est beau, si on fait vraiment cette écoute méditative. En fait, il n'y a pas de formule. La formule, c'est d'être là avec la personne, de l'écouter, il y a quelque chose qui se passe, et après, il y a une créativité qui se fait. Et généralement, c'est éclairé, il y a de la compassion, c'est approprié. Et donc, vraiment, d'essayer de voir ça comme une pratique. Et donc, la façon de commencer en méditation, alors je ne sais pas combien on va avoir de bruit. Ça, c'est toujours un peu la difficulté. Hier, ah, ça aurait été un moment parfait pour la méditation de l'écoute hier, après-midi. Il y avait ce drôle de son. Je me disais, est-ce que c'est des enfants qui font des pétards ou est-ce que c'est quelqu'un qui fouette quelqu'un? Alors, j'espérais qu'il n'y avait personne qui fouettait qui que ce soit. Mais c'était un drôle de son, c'était bizarre. Alors je ne sais pas ce que c'était. Et là, c'est ça qui est intéressant aussi par rapport à la méditation de l'écoute. Donc, écoute, on s'assoit en méditation. On peut aussi le faire dehors. Et au lieu d'être une attention qui va être focalisée sur un point assez étroit, comme la respiration ou le corps, l'écoute, en fait, c'est une attention très ouverte. Donc, on va pas essayer de pointer quelque chose, on va essayer de s'ouvrir à quelque chose. De nouveau, on n'est pas un microscope, et donc on n'est pas, je veux entendre et définir tous les sons qui apparaissent tout le temps, non, pas du tout. Mais on s'ouvre à la musique de la vie. Donc juste on s'ouvre au son. Et ce qui est intéressant avec les sons, c'est que la plupart du temps, ils ne sont pas personnels. Parce que la respiration, on peut faire un petit peu quelque chose, les sensations, c'est relativement personnel. Les sons, ils sont impersonnels la plupart du temps. Et aussi, ils sont imprévisibles. On ne sait jamais si une porte va taper ou si quelqu'un fait un drôle de bruit ou quoi que ce soit. Et donc, en fait, on va être dans cette ouverture qui est un accueil. Donc, on va vraiment cultiver cet accueil. Et là, donc, on peut le faire de différentes manières. Soit on est assis, on entend les sons, et après, on va se focaliser sur le son qui est le plus évident. Après, ça dépend de notre ouïe aussi. On a des gens qui entendent mieux que d'autres. Il y a des différences là. Donc, il y a un son qui est un peu plus fort. L'attention peut aller là, le son part. Et puis aussi avec l'écoute, on est très conscient des tonalités. Un son qui est un peu plus neutre, un son qui est un peu plus agréable, un son qui est un peu plus désagréable, et quand ça passe, etc. Donc, on peut soit être focalisé sur les sons définis, qu'on peut remarquer, et puis quand il passe, on peut revenir au silence. Une sorte de silence un peu prégnant, donc on peut hop, revenir au silence, puis hop, il y a un son qui apparaît, on est conscient du son, conscient, hop, on revient au silence. Ou on peut juste rester avec l'espace dans lequel les sons apparaissent sans les fixer d'aucune manière. Donc ça, c'est à vous de voir. Une autre chose qui est intéressante avec les sons, c'est, bien sûr, dans les conditions que vous êtes dans un endroit qui n'est pas dangereux, d'écouter les sons et d'essayer de voir si vous pouvez ne pas partir dans les commentaires. Donc, vous êtes conscient, votre esprit marche. Donc, généralement, vous reconnaissez les sons. Vous savez la différence entre un son de voiture et un son d'oiseau. Mais essayez de ne pas le nommer. Son de voiture, son d'oiseau. Est-ce qu'on peut être avec le son comme il apparaît, comme il disparaît? Sans nommer, sans commentaire, même si on sait ce que c'est. On sait que c'est un son d'oiseau, on sait que c'est un son de voiture. Et des fois, il y a des sons et on ne sait pas ce que c'est, comme moi hier, ce drôle, ce son de fouet ou de pétard, je ne sais pas ce que c'était. Et donc j'entendais ce son et là on peut voir combien on veut savoir ce que c'est, la signification. Et donc de jouer un petit peu avec ça. De nouveau, est-ce que j'ai besoin de savoir tout ce que les sons sont? Si on est sur le trottoir, on va bien entendre les sons des voitures et les reconnaître. Mais si on est en train de marcher dans le jardin et qu'il n'y a rien qui soit dangereux, est-ce qu'on a besoin de définir, de commenter les sons qu'on entend? Ou est-ce qu'on peut les entendre juste comme, dans un sens, la musique de la vie? Donc c'est un peu l'idée de cette méditation. Juste de cette attention qui est plus ouverte, cette attention qui voit la tonalité, qui voit le changement, si possible de pas nommer, mais on va reconnaître de toute façon. Et donc, c'est ce que je vous suggère de commencer à faire quand vous allez maintenant marcher pendant 25 minutes. Et puis après, on va revenir pour la méditation assise. Et puis là, je ferai une guidance de la méditation, de l'écoute.
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org/donate.